Alors c'est vrai que quand on me demande de préparer une exhortation, j'aime bien le savoir quand même assez en avance, que j'aime bien impliquer des idées à droite à gauche le temps que je la prépare. Et souvent j'ai un thème qui me vient à l'esprit. Et de ce fait, en fait, j'ai des versets, des idées qui me viennent et que je mets un peu en vrac sur une feuille. Et puis le jour où je rédige mon exhortation, bien souvent la semaine d'avant, j'ai une multitude de versets, d'idées en vrac. Et du coup, je dois établir une sorte de plan ou avoir des axes de réflexion pour pouvoir vous présenter quelque chose d'intelligent ce matin. Et quand la semaine dernière, Pierre nous a enseigné sur la réelle existence des forces du mal, du diable, de l'accusateur, j'étais content parce que finalement, ça introduisait très bien ce que j'allais vous présenter ce matin. Donc Pierre, je te remercie pour ton message de la semaine dernière. Et donc ce matin, j'aimerais revenir sur ces forces du mal qui nous entourent et sur notre position face à elles. En plus de cela, nous avons une responsabilité face à ces forces du mal. Alors déjà, quelles sont-elles et pourquoi se défendre? Et tout d'abord, je pense qu'il est important de savoir dans quel contexte on se trouve. On le sait bien, notre monde, notre environnement est plongé dans les ténèbres depuis que Adam et Ève ont péché, depuis la chute, depuis que nous sommes séparés d'avec Dieu. Et tout ce qui nous entoure est confondu et dans les ténèbres, est sombre. Et c'est le diable qui agit en se cachant, en cherchant à gagner des âmes, en cherchant à gagner des perdus. Et on dit de Satan qu'il est le prince de ce monde et qu'il redouble de perversité pour attirer à lui des perdus. Il use de séduction et il court vraiment pour gagner à son ignoble cause des âmes. Et sans arrêt, il cherche la perversion des âmes et la chute. Donc ce contexte dans lequel nous évoluons n'est pas très reluisant. Et nous, chrétiens, qui nous nous battons par rapport à ça, on voit bien que ce contexte nous est vraiment défavorable. Nous n'agissons pas, nous ne vivons pas dans un contexte qui nous veut du bien. Et nous sommes plongés donc dans ce terrain inconnu, ce terrain ennemi. Et dès lors que nous acceptons Jésus, comme le disait Pierre la semaine dernière, nous n'intégrons pas un bateau de croisière, mais bien un bateau de guerre. En choisissant Jésus, on choisit vraiment de fuir ces ténèbres, on choisit de fuir ce mal qui nous entoure et de combattre Satan. Donc nous évoluons vraiment en terrain ennemi. Et c'est pourquoi je pense qu'il est essentiel de reconnaître ce qui est mal, ce qui est dangereux pour nos âmes. C'est très important de savoir ce qui nous fait du mal et ce qui peut nous faire tomber, nous faire chuter. Il est donc primordial de savoir nous défendre face à ces forces obscures. Et donc, comme je vous le disais en prélude de mon exhortation, j'aime bien avoir donc ces idées et j'avais nommé mon exhortation Cours de défense contre les forces du mal. Bon, le titre a un peu changé. Maintenant, je l'ai appelé, vous verrez par la suite, je vous dirai à la fin comment je l'ai appelé. Et donc, dans le noir dans lequel on évolue, on ne discerne pas vraiment parfois ce qui est bien, ce qui est mal. Quand vous rentrez chez vous, qui fait sombre et que vous n'avez pas la lumière à côté de vous, vous pouvez vous prendre la table basse, vous pouvez prendre quelque chose dans les pieds, ça fait mal souvent. Et donc, on a du mal à s'orienter, à savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et il nous faut vraiment être attentifs, nous, chrétiens. On a besoin d'être sur nos gardes, parce qu'effectivement, parfois, on peut s'habituer à l'obscurité. Vous voyez, parfois, quand vous endormez et que vous n'arrivez pas à forcément trouver le sommeil, parfois on s'habitue à l'obscurité qui nous entoure. Et ça, c'est dangereux. Nous ne devons pas nous habituer à cette obscurité-là. Et nous devons vraiment éviter d'y séjourner. On doit éviter de s'y complaire et de rester caché, car ce n'est pas la volonté de Dieu. Et c'est vraiment une question de santé de notre âme. En effet, rester dans les ténèbres, c'est donner une occasion à Satan de nous attirer vers lui, c'est donner à Satan l'occasion de nous faire chuter. En restant dans le noir, souvent, quand vous réveillez, la lumière nous aveugle. Et je ne pense pas que c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons vraiment dans sa lumière, que nous soyons bien dans sa présence, que nous ne soyons pas aveuglés et que nous soyons vraiment mal face à cette lumière. C'est pourquoi nous devons vraiment fuir les ténèbres et rester dans la présence de Dieu. Je vais vous lire un passage en Jean 3, les versets 19 à 20. Et voici quel est le jugement, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il fait, il l'a fait en Dieu. Donc comme on le sait, les ténèbres, c'est une absence de lumière. Ce n'est pas quelque chose qui existe, les ténèbres, c'est le vide. C'est vraiment quelque chose qui n'existe pas, c'est cette absence de lumière. Et c'est pourquoi la solution la plus évidente pour combattre cela, eh bien, c'est de faire briller notre lumière. Et effectivement, avec cette lumière, nos yeux vont voir de nouveau. Nous ne serons plus dans cette obscurité qui nous entoure, mais avec cette lumière, nous voyons vraiment ce qu'il y a autour de nous. Nous voyons ce qui est bien, ce qui est mal, et nous pouvons donc nous diriger vers ce qui est bien. Alors, de quelle lumière parlons-nous ? D'où vient-elle et comment l'utiliser dans nos vies ? Ce sera les questions que nous nous poserons aujourd'hui. Je vais vous lire les premiers versets de votre Bible, quand vous l'ouvrez, la première chose qu'on lit. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu donc sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Ce qui est intéressant dans ces premiers versets, c'est qu'après avoir créé la matière, après avoir créé la terre, les cieux, eh bien la première chose que Dieu fait, c'est de créer la lumière. Et il la crée par ces mots, que la lumière soit. Et c'est intéressant aussi de savoir et de voir dans ces versets qu'il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il sépare la lumière et l'absence de lumière. Et c'est pourquoi la lumière est vraiment nécessaire pour la création de la vie. C'est la première chose que Dieu fait, c'est de créer la lumière pour ensuite créer tout ce qui va en découler, la végétation, les animaux et la vie humaine. Donc la lumière est vraiment le commencement de tout. Ça, c'est une première chose concernant la lumière. La deuxième, c'est Jean qui nous l'apprend dans son prologue à son évangile. Vous savez que l'évangile de Jean parle beaucoup de lumière. Et on apprend que donc, la lumière était déjà au commencement des temps. Jean 1 à 18. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Et Jean lui aurait rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. » Alors là, on parle d'une lumière différente de celle que Dieu crée au commencement. On parle bien évidemment de Jésus, Jésus qui était là dès ce commencement. Et donc c'est bel et bien Jésus qui est cette lumière salvatrice qui va nous éclairer, qui va nous aider à nous défendre contre ces forces du mal. Alors bien évidemment, on ne parle pas ici, quand on parle de la lumière de Jésus, on ne parle pas de la lumière du soleil, même si elle nous fait du bien, on l'a bien vu cette semaine, ça a été agréable de pouvoir avoir ce soleil sur nous, mais on parle bien de la lumière qui éclaire nos âmes et dont notre âme a besoin. Et cette lumière, elle éclaire la relation que Dieu a avec ses enfants. Et Jésus, en accomplissant son dessein, en accomplissant le dessein de Dieu, il illumine un chemin, il met en lumière une relation avec Dieu, un chemin de grâce, de rédemption, de vérité et de salut. Et Jésus l'a dit de nombreuses fois. Quand on regarde dans les évangiles, durant son passage sur terre, À de nombreuses reprises, il le dit, je suis la lumière, il est la lumière pour ceux qui sont dans le noir, et il brille sur ceux qui croient en lui. En Jean 12, 46, il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde. En Jean 8, il dit, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Et Jésus ne s'arrête pas là, il va même encore plus loin. Et il déclare que si nous le suivons, si nous suivons lui la lumière, nous suivons son enseignement, eh bien nous serons semblables à lui, nous serons également des lumières. Et ça c'est important puisque si nous sommes également des lumières, nous sommes en capacité d'éclairer ce qui nous entoure et d'éclairer le chemin qui nous mène vers Dieu. Et en effet, Jésus par sa puissance, il nous transforme, il ne nous laisse pas dans notre obscurité, dans nos ténèbres, il nous transforme vraiment. Et l'action de Jésus dans nos vies, elle ne se résume pas à des paroles ou à des simples faits, mais c'est bien plus profond que ça. Ça révèle complètement la nature de l'enfant de Dieu que nous sommes. Dieu nous a créés pour sa gloire. Et c'est vrai que depuis la chute, les êtres humains ne remplissent pas forcément ce devoir-là, mais Jésus, lui qui est la lumière, restaure ceci en nous. Il restaure ce que Dieu a voulu pour nous depuis le début, à savoir une vie illuminée de sa présence et faite pour sa gloire. Et vous l'avez sur vos petits papiers, le verset du jour, donc en Matthieu 5, les versets 14 à 16, Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Donc cette lumière qui est Jésus, et qu'il transmet à tous ceux qui croient en lui, comme Sauveur et Seigneur, c'est une défense extraordinaire contre les forces du mal qui nous entourent et dont je parlais un petit peu plus tôt. Le mal, le péché, Satan ont horreur de cette lumière. Ils ne peuvent pas la voir. Alors si nous la portons, cette lumière, eh bien, sachez que nous avons une défense irrésistible face à Satan, face aux démons. Et pourquoi ? Parce que c'est Jésus qui nous apporte cette lumière. C'est lui qui a vaincu la mort par son sacrifice. C'est lui qui a vraiment éliminé le péché de nos vies en se sacrifiant pour nous. Et c'est surtout lui qui prononcera le jugement face à Satan. Et c'est pour ça que Satan déteste la lumière que Jésus nous donne. C'est pourquoi donc, cette lumière a un pouvoir vraiment immesurable contre ces forces du malin. Et nous devons les utiliser, car elle les éblouit, elle les fait fuir, et le mal vraiment ne supporte pas d'être mis en lumière. Tout à l'heure, je le disais, Satan agit caché dans les ténèbres. Donc c'est pourquoi, là maintenant c'est une partie qui va vraiment à laquelle je vais vous adresser, c'est pourquoi il est vraiment primordial de laisser cette lumière agir en nous. Et sans ça, on est vraiment dépourvu de défense, on est vraiment sans défense face au mal. Donc vraiment, mon message ce matin, c'est que nous puissions faire briller cette lumière dans nos vies. Alors arrêtons-nous un instant et imaginons que nous sommes tous des lampes torches. Mettons, voilà, nous ne sommes plus des êtres humains, nous sommes tous des lampes torches et nous sommes dans une immense salle fermée qui est complètement dans le noir. Donc chaque torche, évidemment, est identique, elle possède une ampoule, les circuits imprimés, les fils qui servent à faire les connexions et puis la coque en plastique qui sert à faire d'elle une lampe torche. Donc on vit tous dans cette gigantesque salle où il fait complètement noir. Et fait étonnant, on a certaines lampes torches qui sont allumées et d'autres non. Alors comment est-ce que c'est possible? Comment certaines font de la lumière et d'autres non? Bien effectivement, pour faire de la lumière, il faut une certaine énergie, il faut avoir des piles, il faut avoir une batterie. Et donc, ce qui nous laisse supposer que toutes les lampes torches n'ont pas choisi de mettre des piles ou de mettre une batterie en elles pour faire fonctionner leur lumière. Donc on se retrouve dans cette immense salle noire avec des lampes torches qui brillent et d'autres. Et donc cette métaphore pour dire que les lampes qui ont utilisé ces piles, eh bien c'est un peu les lampes qui ont choisi de mettre leur foi en Jésus, de mettre les piles de la foi pour que leur lumière brille. Et c'est ceux qui croient que Jésus est Sauveur et Seigneur. Et en ayant cette foi, elles sont en capacité d'émettre de la lumière. Alors cette lumière, elle ne vient pas de nous, elle ne vient pas de notre propre volonté, mais c'est bien Jésus qui brille en nous, grâce aux piles de la foi que nous mettons en nous. Mais c'est vraiment Jésus qui nous donne cette lumière. Et donc maintenant, nous savons ces deux choses, que des lampes brillent et d'autres non. Celles qui brillent, forcément, elles éclairent, elles illuminent et elles sont visibles de tous, surtout. Alors cependant, si celles qui brillent se cachent sous un boisseau, sous un seau, Comment est-ce qu'on va pouvoir remarquer leur lumière? Comment celles qui sont éteintes vont pouvoir se dire, mais tiens, pourquoi est-ce qu'elles brillent celles-ci? Alors que le but premier, c'est bien, pour une lampe torche, c'est bien de briller, c'est bien d'éclairer. Donc si on transpose cette histoire à nous, chrétiens, ça devient évident que la lumière que Jésus nous donne, elle doit briller. Parce que la cacher, ce serait renier Jésus, ce serait renier notre Christ. Et se priver surtout soi-même de la lumière qu'il nous donne. Et également priver notre entourage, nos amis, les gens que nous côtoyons, de voir cette lumière. Et effectivement, si nous cachons cette lumière, personne ne saura que nous venons de Jésus, que Jésus brille en nous. Et quel intérêt y a-t-il d'avoir la lumière et de la cacher? Et cette histoire, elle nous permet de comprendre que la lumière qui est en nous, elle vient de Jésus. C'est effectivement sa lumière qui brille en nous. C'est elle qui éclaire notre chemin vers Dieu, qui illumine notre entourage. Mais si nous la cachons, nous, non seulement nous ne verrons plus ce qu'il y a devant nous, mais en plus les autres ne sauront même pas que nous sommes chrétiens. Et dans un film enfin, qui est tiré du livre que j'aime beaucoup, Le Seigneur des Anneaux, qui a été écrit par Tolkien, on retrouve cette notion de lumière vraiment partout. C'est assez impressionnant. Donc Tolkien, qui est l'auteur de ce livre, donc, qui raconte l'histoire de Frodo dans sa quête hein, de détruire l'anneau, si vous avez lu ou vu les films. Donc Frodo est accompagné d'une communauté qui l'accompagne dans sa quête. Et tous les membres de cette communauté se voient à un moment de leur parcours, ils se voient offrir des cadeaux par la reine des elfes. Et alors que tous ses compagnons se voient offrir des armes, des dagues, des arcs, ou même de la corde ou de la nourriture, Frodo, celui qui porte l'anneau et qui doit détruire cet anneau, il se voit recevoir une fiole de lumière. Alors, au début, il est un petit peu. Enfin, il se dit, mais pourquoi est-ce que moi on m'offre ça alors que les autres ont eu des armes pour se défendre? Moi, on m'offre une fiole de lumière. Et là, la reine des elfes dit quelque chose d'assez intéressant. Elle lui dit, elle brillera d'une lumière encore plus vive quand la nuit vous environnera. Qu'elle vous soit une lumière dans les endroits ténébreux quand toutes les autres s'éteindront. Et là, c'est vrai que c'est intéressant de voir ce parallèle, que celui qui a la plus lourde tâche dans cette communauté se voit offrir de la lumière, vraiment pour pouvoir continuer sa quête et de pouvoir continuer même lorsque tout autour de lui est ténébreux. Et la deuxième allusion également dans Seigneur des Anneaux, c'est le vieux magicien avec sa longue barbe, Gandalf, le gris. Et au tout début, donc, que la communauté se met en route pour détruire cet anneau, il combat une bête horrible, maléfique, dans les mines de la Moria. Et vraiment pour sauver ses compagnons, qu'il laisse traverser le pont, voilà, il s'en va vers une mort certaine en combattant cette bête. Et tous ses compagnons sont effondrés, ils le pensent mort, ils le pensent fini, alors qu'il incarnait quand même un petit peu cette place de chef dans la communauté. Et pourtant, un petit peu plus tard dans l'histoire, ils sont vraiment stupéfaits de voir réapparaître Gandalf, alors qu'ils le pensaient mort face à cette terrible bête. Et ce n'est plus Gandalf le gris, mais Gandalf le blanc, puisque lorsqu'il leur réapparaît, il est complètement illuminé, étincelant devant. Ils sont même obligés de se protéger les yeux, tellement ils sont aveuglés par la lumière qu'il donne à ses amis. Et c'est intéressant de voir ces plusieurs allusions dans ce film, dans ces livres, de voir que la lumière a vraiment ce rôle d'illuminer, d'éclairer là où tout espoir semblait perdu, là où les compagnons de Frodo semblaient au bout de leur force et ne savaient plus quoi faire, que c'est la lumière souvent qui vient les aider, qui vient les remettre dans cette trajectoire, dans cette quête de détruire le mal. Donc vraiment, on voit que la lumière joue un rôle primordial dans notre vie de tous les jours. C'est elle qui nous éclaire dans les moments ténébreux, dans les moments sombres. Et cette lumière, bien sûr, donc elle vient de Jésus et c'est vraiment la seule lumière qui doit exister pour nous. C'est la seule chose qui doit nous aider dans notre vie à décider, à faire des choix. C'est vraiment à la lumière de Jésus que nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Et on retrouve vraiment la lumière partout, même dans l'Ancien Testament. En Samuel, tu es ma lampe, ô Éternel, tu illumines mes ténèbres. Ou même en Michée, si je suis dans l'obscurité, le Seigneur est ma lumière. Et même le psalmiste dira, ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. Donc cette lumière a vraiment pour action d'illuminer, d'éblouir, vraiment de donner de la lumière à nos amis, nos entourages. Et cette lumière que nous avons, elle vient de Jésus, c'est celle qui sauve. Alors n'ayons pas peur de la montrer autour de nous, n'ayons pas peur de rayonner et d'annoncer Jésus dans les conversations que nous pouvons avoir avec nos amis, de vraiment dire que c'est lui qui donne un sens à notre vie, c'est lui qui nous dirige. Et si on se souvient de ces fameuses lampes torches dont je vous parlais tout à l'heure, si on cache cette lumière, elle servira à rien. Nous devons vraiment l'exposer, nous devons vraiment marcher dans cette lumière. Et une dernière image, et ensuite j'en aurai fini. Pour ceux qui se souviennent un peu de leur cours de physique, moi je sais que je n'étais pas très assidu en cours de physique, mais je me souviens quand même de cette expérience qui m'avait quand même assez bluffé. Lorsqu'on utilise un faisceau de lumière blanche et qu'on le fait traverser un prisme, donc c'est une espèce de petit triangle, on peut voir que le spectre qui passe à travers ce prisme, il révèle tout un éventail de couleurs. Et effectivement, donc c'est ce qu'on appelle la dispersion. Cet éventail de couleurs, on peut aussi prendre pour image que lorsque Jésus nous traverse de sa lumière, il va produire en nous une multitude de fruits par l'intermédiaire de son esprit. Donc c'est essentiel vraiment de laisser Jésus nous traverser par sa lumière. Et Ésaïe dira même « Venons, marchons à la lumière de l'Éternel ». Et donc finalement, on l'a vu, donc elle sert à nous diriger dans notre vie, à voir quelle est la volonté de Dieu pour nous. Elle sert également à éclairer ceux qui sont autour de nous, mais elle sert également à combattre Satan. Comme je disais en prélude de mon exhortation, elle nous sert vraiment à combattre Satan et ses forces du mal. Et vraiment, cette lumière de Jésus nous aide à mener une vie qui plaît au Seigneur. Elle indique ce qui est bon, elle indique ce qui nous éloigne de Satan, du mal, et elle nous indique vraiment le chemin à suivre pour rencontrer Dieu et pour vivre une vie pieuse. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? Jésus également nous assure qu'en suivant sa lumière, nous ne serons jamais délaissés à l'emprise de Satan. Et c'est Nelly qui le citait tout à l'heure, le passage en 1 Corinthiens 10. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Et donc pour terminer, je voudrais nous lancer un appel, que nous puissions prendre vraiment le temps de recevoir cette lumière chaque jour, qu'elle devienne naturelle, que nous soyons vraiment dans la présence de Dieu de manière naturelle avec lui. Et nous l'emporterons avec nous partout. Si nous acceptons cette lumière et que nous souhaitons la révéler, elle nous suivra partout. Et les gens qui nous entourent pourront la voir. Alors consacrons-nous à nouveau à Dieu, notre vie à Dieu, que nous cherchions à nous purifier du péché, à éviter de rester dans ces zones sombres, que nous soyons courageux dans notre témoignage, que nous puissions ne pas mettre notre lumière sous un boisseau ou la cacher, et que ceux vraiment qui nous entourent voient cette lumière. En Philippiens, on dit « briller comme des flambeaux dans le monde ». Et voilà, pour terminer, le chant qui a un petit peu aussi guidé mon exhortation, regardons Jésus, il est vraiment la lumière, et c'est le chant Brio Jésus qui dit « Quand nous contemplons l'éclat de ta beauté, nos visages reflètent ta beauté. » Amen.